Bienvenue. Nous vous remercions d'avoir décidé de vous joindre à nous et à d'autres personnes dans toute la nation en cette journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Bien que nous soyons dispersés à travers la géographie de ce pays, nous sommes unis dans le Christ en élevant nos cœurs dans la prière. Au cours de ce pèlerinage audio narré, vous serez guidés à travers quatre moments. L'enracinement, le souvenir, la réflexion et la lamentation, avec le temps de faire une pause, de réfléchir et d'ajouter vos propres prières aux invités fournis. Au nom de nos partenaires baptistes canadiens de tout le pays, nous vous remercions de votre présence. Commençons. Le premier mouvement de notre temps ensemble est un mouvement d'enracinement. Je vous invite à faire une pause, à respirer profondément. Inspirez. Expirez. Prenez conscience de votre environnement. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Remerciez les signes de vie et la bonne création de Dieu autour de vous. Qu'entendez-vous? Que sentez-vous? Que ressentez-vous? Certains d'entre vous voudront peut-être enlever leurs chaussures pour sentir le sol sur lequel ils se trouvent. Dieu a demandé à Moïse d'enlever ses chaussures lorsqu'il l'a rencontré au buisson ardent. Cela lui a rappelé que le sol sur lequel il se tenait était saint. Les pieds nus sont également vénérables. Tout comme Moïse a été invité à changer de posture et à emprunter un nouveau chemin, nous espérons que nous rencontrons Jésus de nouvelles manières et que nous emprunterons un nouveau chemin à cause de cela. Prenez un moment pour vous préparer à ce chemin. N'hésitez pas à interrompre l'enregistrement à tout moment si vous souhaitez prendre plus de temps. En commençant à marcher, réfléchissez aux autochtones qui habitent les terres où vous vous trouvez. Que savez-vous d'eux? Y en a-t-il d'autres qui ont été forcés de quitter leur terre? Savez-vous quels accords ont été conclus sur le partage des terres avec les nouveaux arrivants? Que savez-vous des relations qui se sont développées depuis le point de contact jusqu'à aujourd'hui sur ces terres? De quoi êtes-vous reconnaissant? Comment pouvez-vous vous engager à bien vivre avec vos voisins autochtones? Seigneur, lorsque nous marchons, nous te louons pour cette journée et pour le but que tu lui as donné. Réinitialise nos agendas, recalibre nos intentions et recentre nos cœurs. Ta volonté pour nos vies ne reflète pas toujours nos plans. Change-les pour qu'ils reflètent ta volonté. Alors que nous marchons, puissons-nous voir avec tes yeux et entendre avec tes oreilles. Que notre esprit soit en accord avec le Saint-Esprit pour te reconnaître dans l'ordinaire et dans l'extraordinaire. Alors que nous entamons notre deuxième mouvement, le souvenir, nous tournons nos cœurs, nos esprits et notre attention vers les survivants des pensionnats. En marchant ou en suivant le chemin de labyrinthe, écoutez les voix des enfants. Réfléchissez à leur parcours dans les pensionnats. Dans un instant, nous écouterons l'histoire des efforts déployés au Yukon pour rechercher les tombes anonymes et une partie de l'histoire d'Adeline Weber qui a fréquenté l'école de la mission Baptiste de Whitehorse. Jésus, veux-tu toucher nos cœurs avec les choses qui touchent ton cœur?
Many Indigenous children never made it home from school. That's part of the terrible legacy of Canada's Indian residential schools. This spring, ground-penetrating radar will be used to look for unmarked graves at the former site of Chutla School, also known as the Carcross Indian Residential School in southern Yukon. It ran at various points between 1903 and 1969. It's not known how many children died at the schools here. That's part of what the Chutla Working Group is hoping to find out. It's organizing the search for graves in the Yukon. Adeline Weber is chair of the working group. Here's Adeline.
My name is Adeline Weber. I'm a member of the Teslin Tlingit First Nation. I'm from the Kokoton clan. We're the Raven Children, and my Tlingit name is Gaide. You know, the whole residential school issue was, you know, not to educate them, the First Nation people. I think it was to eventually eliminate us, you know, as a race of people.
it's important to look and see if there are graves at these sites as well.
That's right. And we do know that from the records that their children did die, and but we don't have complete information yet on where they're buried, because there's no grave markers that we know of, including one for my brother. Yeah.
I'd like to talk about your brother in a moment. Mm-hmm. First, let's talk a little bit about yourself and where you grew up.
Well, I was born and raised here in Whitehorse. I attended the, along with my sisters, my three sisters, we attended the Whitehorse Baptist Mission School, which is just in downtown Whitehorse. So a lot of people don't know about that school, but it ran from 1947 to 1960 when we were able to, from there, go to public school. A lot of nice people that worked at those schools, but when the head is very, very strict and wants things his way, then that's the way things are. One thing I find, like when you look at photographs, because, well, when you look at photographs, they were only taken when there was some kind of celebration or things like that going on. And I know that from experience when I was working on the project for Finding Our Faces, like the book that we produced.
Finding Our Faces was the photo book that you developed about for students who went to the Whitehorse Baptist Mission School.
Somebody said to me, well, you know, you looks like you guys were quite happy, you were having fun. Well, that was it. It was the fun times that they took the photos and things, and we didn't have photographs of ourselves, so that was one of the reasons we went ahead with that project. But yeah, it's really important to have some sort of record of that you were there.
And your brother Albert, what do you know about him?
Yeah, I just know that he was the oldest sibling, and also another sibling, Joe. They both went away to residential school as well. Albert went to the Chutla Residential School. Joe went to the Gruard Residential School in Alberta. Our brother Albert went to school and died there when he was about five or six years old. In fact, just recently, in looking at some of the records that are starting to be made available to us, I was just browsing through, and I saw my brother's name. So, of course, I looked across the grid, and all it said was that he attended, he enrolled in 1942, didn't say where he was from or anything, and that at the end of September, he died. We always were told by other students, older students that attended that school, that he died of measles, but the report only says he died of diphtheria. So that's all I know about him.
And just within a month of being at the school.
Yeah, I didn't know that before a couple of months ago. So I let my siblings know that as well. So it brings some closure to know, you know, at least the date. But it's really sad when you think, you know, that he was only probably five. And I do know that he died alone. And when they were sick, he was just put into the laundry room. It was cold and damp in there, I'm sure, as any laundry would be in September. So others said that they had taken him water and tried to help him a bit, but he died.
Where was he buried, do you know?
He's buried in Teslin somewhere, but I don't know where.
Adeline contacted me later. She meant to say her brother Albert is buried in Carcross somewhere.
So this is one of the reasons that I'm really keen on doing this work. So that like that's just our story of our brother Albert, but you know, many others would like to have some closure as well. So,
do you remember hearing through friends and family about other children who didn't come home in the Yukon?
Oh yes, there was always talk of that, and we do know of other families that that went through the same thing. My mother never ever forgot about him, you know. And then, you know, with our brother Joe being in Gruard in Alberta, he went there about 5 years old as well, and he was only like 2 years younger than my brother Albert. He never came home till he was 16. Like, he never came home over the summers or anything. And when Mom was talking about Joe and Albert, it was always kind of, I kind of always thought it was one and the same. I didn't know, because I didn't know my brothers then. But I did get to know my brother Joe later, yeah.
And you never did get to meet Albert, though?
No, he died before I was born.
In the Truth and Reconciliation Commission, the records they've found, there's, I guess, the way that deaths were listed at residential schools, it's categorized into named and unnamed, as in, like, some of the school administrators didn't name the children who died at the schools.
That's true. In fact, some of what I've seen, there might be a name, didn't say what community they were from, it just said died.
What does that say to you if school administrators weren't naming the children who died?
It's, you know, the poor record keeping. I'm hoping that they have another record somewhere. You know, because we haven't looked at yet the church records. Like, we have some of the church records, I should say, but I would like to see, you know, the church records of marriages, deaths, births, baptisms, that sort of thing. That's what I'm looking forward to seeing, because I'm hoping that they would say in there that, you know, they were buried on the school grounds or they were buried in the local graveyard in Carcross, but there's no indication so far. And so I'm looking forward to hearing and seeing that information. So there's a lot of information that we're going to be going through, and so you know, I've seen some of it, and you know, there's records of meetings and costs that were approved by the Inuit. What they want to do is complete the work for the next year and 2 years at Chutla, and then move on to other areas where there have been residential schools. Like, the next place we plan to be is here in Whitehorse, because there was the Baptist Mission School, as I mentioned. Yeah, so we've got a lot of work to do over the next couple of years, so we're really just beginning.
Eventually, this is down the road, but could there be excavations at these sites as well to confirm, like, the identities of children?
Yes, whatever the community decides, you know. And that's something, like I mentioned earlier, we're doing is we're working with each community, working with the elders, talking about, you know, what are the protocols. You know, some people are talking about, okay, they want excavations. Others are saying, no, just leave them where they are. So we have to develop those cultural protocols. And we need to be working with the elders in each area and the community for sure. So, yeah, it's very sensitive work that has to be done. But I think for people to find some peace, they need to find out what happened to their ancestors and you know, confirm for themselves and their families.
Notre troisième mouvement est celui de la réflexion. En vous penchant sur l'histoire d'Adeline et sur celle des membres de sa famille et de ses voisines, qu'est-ce que l'esprit éveille en vous? L'année dernière, Dr. Danny Zacharias nous a invités à faire face à la douleur que nous rencontrons dans les réalités de l'héritage des pensionnats en présence de l'esprit. Et s'est appuyé sur Romains 8 pour parler des gémissements de l'esprit. En réfléchissant, nous avons parfois du mal à savoir quoi faire des pensées et des émotions suscitées ou non par des histoires comme celle d'Adeline. Écoutez ces mots de Romains pour inviter l'esprit à gémir avec vous, en vous et à travers vous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Écoutez une deuxième fois le texte. Quel est le mot ou la phrase qui vous a frappé? En silence, demandez à Dieu si ce texte vous invite à dialoguer avec l'histoire des pensionnats. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Enfin, nous entrons dans notre dernier mouvement de Lamentation. Le révérend Song Chan-ha écrit ceci à propos de la lamentation dans son livre Prophetic Lament, A Call for Justice in Troubled Times. La réconciliation, la justice et le shalom véritable exigent que l'on se souvienne de la souffrance, que l'on dévoile une histoire honteuse et que l'on soit entré dans la lamentation. La lamentation appelle à une rencontre authentique avec la vérité et remet en question les privilèges, car ceci dissimule la vérité qui crie le malaise. Une deuxième fois. La réconciliation, la justice et le shalom véritable exigent que l'on se souvienne de la souffrance, que l'on dévoile une histoire honteuse et que l'on soit entré dans la lamentation. La lamentation appelle à une rencontre authentique avec la vérité et remet en question les privilèges, car ceci dissimule la vérité qui crie le malaise. En tant que baptiste, nos muscles de lamentation ne sont peut-être pas bien exercés, mais nous apprenons à les développer. Alors que vous terminez votre marche ou le dernier cycle de votre labyrinthe à droite, nous voulons vous inviter à prier vos propres lamentations. Je vais vous proposer 3 suggestions si elles vous sont utiles. Commencez par décrire la douleur ou l'angoisse que vous avez ressentie au cours de cette promenade. Si vous n'avez pas ressenti ces émotions, permettez-moi de vous inviter à imaginer la douleur ou l'angoisse d'une histoire que vous connaissez ou que vous pouvez imaginer, celle d'un enfant arraché à sa famille et envoyé dans un pensionnat loin de chez lui, ou celle d'un parent ou d'un membre de la communauté lorsque tous les enfants ont soudainement disparu de votre foyer ou de votre communauté. Prenez le temps de vous remémorer ces émotions. Rappelez le caractère de Dieu. Apportez vos gémissements et vos questions dans la présence de Dieu, dans la plénitude de ce qu'il est.
Yeah. Hi-yi-yo.
Prière de réconciliation. Dieu de grâce et Dieu de puissance transformatrice, tu nous as réconciliés avec toi-même en Christ. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Tu nous as confié le message de réconciliation. Ô Dieu, nous savons que la recherche de la droiture est la recherche de la justice. Nous prions pour la justice dans nos relations avec les autres. Nous prions pour la réconciliation avec tous ceux qui partagent cette terre. Nous prions en ce moment pour la guérison, la justice et la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones du Canada. Seigneur, nous prions pour la réconciliation entre les peuples autochtones et tous ceux qui vivent avec eux dans ce lieu que les cris et les Anishinaabes appellent l'île de la tortue, dans ce lieu que nous appelons maintenant aussi le Canada. Nous savons que c'est toi qui nous appelles et nous conduis à la réconciliation. Nous élevons toutes ces prières, prononcées ou non. Nous élevons tous les mots que nous avons entendus et pensés au cours de cette marche. Nous élevons le désir de guérison et de réconciliation de nos cœurs jusqu'à toi, ô Dieu, notre force, notre rocher, notre Rédempteur et notre ami. Amen.